Ce message vous est proposé gratuitement.
Gratuitement.
Et en intégralité par le ministère Enseigne-moi. Sa diffusion est rendue possible grâce aux généreux dons des internautes comme vous. Nous vous souhaitons une agréable écoute sur enseignemoi.com, le site partenaire des églises locales.
Je vous ai promis que on allait commencer à travailler sur la nouvelle année. Amen. C'est en fait un travail qu'on fait ensemble, parce que moi-même, je m'attends à beaucoup de choses cette nouvelle année-là. 2010, ça doit être une année extrêmement bénissante pour nous, amen, pour l'Assemblée, pour mon couple, pour les enfants, pour les réalisations. Ça doit être quelque chose de fort, amen. Et puis, je ne sais pas, mais j'aime bien les fins d'année. Qui aime les fins d'année comme moi? Ok? Moi, j'aime bien les fins d'année, parce que juste après les fins d'année, il y a les débuts d'année. Il ne peut pas y avoir de début d'année s'il n'y a pas de fin d'année. Amen. Et puis j'aime bien les débuts d'année, je ne sais pas pourquoi, parce que c'est souvent l'occasion de pouvoir prendre des résolutions, de faire des projections, de pouvoir faire des projets, de pouvoir aussi les réaliser. Amen. La fin d'année, c'est une période donc, qui est assez intéressante, parce que c'est un temps de réflexion. C'est-à-dire qu'on arrive vers la fin de l'année, on se demande, mais qu'est-ce qu'on a bien pu faire de son année? Et généralement, ceux qui n'aiment pas les fins d'année, c'est ceux qui se rendent compte que finalement, une année est passée et ils n'ont rien fait. Mais ça ne doit pas être le cas. Amen. Parce que la fin d'année, c'est aussi un temps de projection. Amen. C'est un moment où on se projette. On se projette dans l'avenir. On se projette dans la nouvelle année. On commence à regarder les choses qu'on peut encore faire, des choses qu'on peut améliorer, des choses qu'on peut développer. Amen. C'est un moment aussi où on commence à penser aux gens qui nous sont chers. Bizarrement, en fin d'année, vous allez recevoir des messages, vous allez recevoir des fois des présents de personnes que toute l'année, pratiquement, vous n'avez même pas fréquenté. En fin d'année, généralement, on a le réflexe de commencer à réfléchir. Ah, mais il y a longtemps, je n'ai pas vu telle cousine, il y a longtemps, je n'ai pas vu le frère tant, il y a longtemps, je n'ai pas... Bon. Des fois, c'est des personnes qui cherchent des endroits où aller passer les fins de vacances. J'ai dit des fois. Des fois aussi, tu sais que tu vas retourner dans ton quartier ou bien chez papa, maman, où tu as grandi, donc tu vas forcément revoir tes amis. Donc, autant les saluer avant que tu n'arrives. Tu vois. En fin d'année aussi, qu'est-ce qu'on fait? On dresse la liste des choses qu'on aimerait accomplir dans l'année qui vient. Et puis, bizarrement, dans la liste, il y a presque tout dedans. Il y a des choses qui sont bien, il y a des choses qui sont intéressantes. Il y a des choses, avec un peu de recul, qu'on finit par trouver bizarres et farfelues. Parce que ce sont des choses qui sont sans trop grande importance. Mais, une chose que nous devons savoir, c'est qu'il est important de planifier. Amen. Il est important de planifier. Regarde dans Proverbes chapitre 16, verset 9. Celui qui planifie pas son succès a planifié d'échouer. Proverbes chapitre 16, verset 9. La Bible dit, le cœur de l'homme médite sa voie. Amen. La version anglaise dira, le cœur de l'homme planifie sa voie. Le cœur de l'homme donc médite sa voie, mais c'est l'Éternel qui dirige ses pas. Amen. Le cœur de l'homme médite sa voie. Moi, je préfère la version qui dit le cœur de l'homme planifie sa voie ou prépare sa voie. Amen. Pourquoi? Parce que c'est l'homme, en réalité, qui va déterminer un peu ce que l'avenir va porter pour lui, en réalité. Maintenant, ce qui se passe, c'est que ça peut se passer comme on l'a planifié, comme ça peut se passer autrement que la manière dont on l'a planifié. Mais l'homme, normalement, doit être l'architecte de sa vie. Le Seigneur Jésus a dit, mais quel est l'homme qui commence à bâtir une maison, qui commence à construire une demeure et qui ne prend pas le temps d'abord de planifier? Parce que le problème, c'est que s'il commence à construire la maison sans avoir d'abord déterminé quelle serait la hauteur de la maison, combien de chambres il y aura dans la maison, combien de fenêtres il y aura dans la maison, où est-ce qu'il va mettre le jardin et par où est-ce qu'on va entrer? Et si, par exemple, il a deux véhicules, où est-ce qu'il va garer ces deux véhicules? S'il ne planifie pas toutes ces choses-là et qu'il commence à bâtir, quel que soit le résultat de ce qu'il fera, ça sera loin de ce dont il a besoin. Vous comprenez? En réalité, nous travaillons en collaboration avec Dieu. En réalité, nous accomplissons les choses en marchant main dans la main avec Dieu. Amen. Et c'est pour ça qu'il dit, il dit que le cœur de l'homme médite sa voie. Le cœur de l'homme prépare son chemin. Le cœur de l'homme planifie sa voie. Amen. Il détermine ce qu'il aimerait avoir. Mais c'est l'Éternel qui fait quoi? Qui dirige ses pas. C'est ensuite l'Éternel qui va lui dire, bon, écoute, maintenant que tu sais ce que tu veux, amen, fais comme ci, fais comme ça, ne fais pas ci, ne fais pas ça. Prie maintenant. Tu vois, c'est Dieu maintenant qui va diriger tes pas pour que tu puisses maintenant atteindre ce que tu veux. Parce que entre ce que tu veux et toi, il y a d'autres forces maintenant qui rentrent en jeu et qui rentrent en ligne de compte. Qui font que des personnes planifient des choses qu'ils n'auront jamais. Bizarrement, j'ai remarqué que dans le football, pour prendre un exemple que beaucoup de personnes connaissent et pratiquent, 99% des joueurs de football sont soit croyants, soit superstitieux. Ils ont tous 99%, même les entraîneurs. Parce que voilà des gens qui, malgré leur talent, malgré les entraînements, malgré tout ce qu'ils savent faire ou tout ce qu'ils ont déjà fait, savent qu'ils peuvent passer un match 90 minutes et puis être l'ombre même de ceux qu'ils sont et de ne même pas pouvoir même marquer un but. C'est pour ça que la plupart, quand vous les voyez entrer sur le terrain, ceux qui sont catholiques, ils font le signe de la croix. Ceux qui sont musulmans, ils font un petit signe. Ceux qui sont chrétiens aussi, ils font un signe. Il y en a beaucoup qui sont des chrétiens. Il y en a beaucoup qui sont, mais eux tous, ils ont au moins une, ils ont une religion. Parce qu'ils savent que il y a un élément qui ne dépend pas d'eux. Eux, ils peuvent planifier de marquer un but. Il y a quelque chose qui fait qu'eux, ils contrôlent pas toutes les forces. Ils savent qu'ils ne les contrôlent pas. Et vous avez, même les entraîneurs, c'est la même chose. Tu peux planifier le succès, faire les stratégies, faire toutes ces choses-là, mais les choses, en fait, sortent maintenant de ton contrôle. Mais ça ne veut pas dire que, parce que les choses ne se passent pas toujours comme on veut, que nous ne devons pas planifier. Est-ce que vous comprenez? Dieu dit, il faut que ton cœur m'amène quelque chose. Il faut que ton cœur me propose un projet. Quel est ton projet pour 2010? Quel est ton projet pour 2011? Quel est ton projet pour 2015? Quels sont tes projets? Quel est ton plan? Qu'est-ce que tu vas accomplir? Et maintenant, une fois que tu as élaboré le projet, l'Éternel maintenant va faire quoi? Il va diriger tes pas. Il va diriger tes pas. Il va envoyer les personnes qu'il faut. Tu vas rencontrer, bizarrement, tu vas rencontrer les personnes qu'il faut. Tu as pour projet de construire une maison. Tu vas dîner dans un restaurant. Tu salues quelqu'un là. Vous commencez à discuter un peu et te dis, ah tiens, au fait, moi je suis dans le bâtiment. Je construis des maisons. Tu vas dire, mais tant que tu n'as pas élaboré le projet, oh my God, tant que tu n'as pas proposé le plan, mais le grand architecte, l'Éternel des armées, on ne peut pas commencer à harmoniser les choses dans ta vie. Le problème de beaucoup de personnes, vous savez c'est quoi? C'est que en réalité, ils ne se projettent pas. Pour beaucoup de personnes, j'aime pas dire ça, mais c'est un peu la vérité, c'est comme si les gens survivent. C'est comme si les gens en fait font des projets par rapport à leurs problèmes. On ne fait pas de projets par rapport à ses problèmes. On fait des projets par rapport à ses aspirations. Alléluia. À un moment, il faut pouvoir sortir de son problème et puis pouvoir se projeter hors du problème. Oh, il y a des personnes qui mettent tous leurs projets en suspens en attendant que le problème soit résolu d'abord. Et maintenant, quand le problème, il dit, bon, pour le moment là, j'ai aucun projet. D'abord, il faut que ça là, il faut que je guérisse. Et tant que je guéris pas, en tout cas, je ne peux rien faire. Mais si tu peux rien faire, c'est que tu ne vas jamais guérir. Parce que même quand Dieu doit opérer dans la vie de quelqu'un, même quand Dieu doit opérer dans la vie d'une personne, regardez comment il a fait avec Sarah. Il arrive. Et la Bible dit que, il dit à Abraham, il dit, mais où est ta femme? Et Abraham lui dit, bon, elle est là, elle est. Il dit, l'année prochaine, à la même heure, elle embrassera un fils. Et Sarah qui commence à rire. Même si tu ne crois pas au projet que tu es en train d'élaborer là, élabore ton projet. Oh, alléluia! Alléluia! Permets-toi de rêver! permets-toi de sortir de ton état. Parce que tant que tu vas rester dans ton état, il n'y a pas beaucoup de changements qui vont pouvoir s'opérer. Et lui dit, écoute, Sarah, faut sortir de ta, de ton affaire. C'est vrai que ça fait 99 ans que tu n'as pas eu d'enfant. C'est vrai que tu es ménopausé déjà 7 fois ou 7 fois, 77 fois. C'est vrai que là où tu es là, tu n'as plus de force. Vous savez, Abraham, il était vieux. Sarah aussi, elle était vieille. Ils ont connu le Seigneur, ils avaient 65 ans pour Abraham. Ils ont marché avec Dieu. Les gens qui disent, oui, moi j'attends mon miracle. Ça fait combien de temps que tu attends ton miracle? Non, ça fait 6 mois, ça fait 2 ans. Tu n'as rien vu. Sarah, elle a attendu son miracle pendant 35 ans, 40 ans. Dieu n'est pas influencé par les affaires, par le temps. Dieu veut voir des choses dans ta vie. Oh my God, my God, il y a des choses qu'il veut voir dans ta vie avant d'agir. Tant qu'il ne voit pas, il ne fait pas. Donc, tu as beau remuer ciel et terre, pour toi, ça sera plus rapide de commencer à produire les éléments que Dieu veut voir dans ta vie que de chercher à attirer la pitié des gens. La pitié des gens n'a jamais changé la vie de quelqu'un. Tu vois? Il dit à Sarah, tu dois avoir un projet. Si toi-même tu n'as pas de projet, voilà le projet que je te donne. L'année prochaine, tu embrasseras un fils. Elle dit, oh Seigneur, même si le ciel devait s'ouvrir, parce qu'elle a déjà essayé. Chérie, on devient vieux. Si on ne fait pas maintenant, on ne peut plus faire. Réunis toute ton énergie, là. La dernière fois, je suis passé dans un endroit, on m'a donné une poudre, on dit non, ça, là, si tu bois ça, tu seras bien en forme et tout ça. Elle a essayé. Ils ont essayé, ils ont prié, ils ont essayé. Dieu a dit non. Oui, Dieu a dit, mais c'est comment? Ils ont essayé. Mais ce n'est que lorsque... Tu sais, quand Dieu dit à Sarah, l'année prochaine, tu embrasseras un fils, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire, commence à t'organiser, à organiser ta vie par rapport au fils que tu auras l'année prochaine. Amen. Si quelqu'un qui atteint un fils l'année prochaine va commencer à planifier, mais où est-ce que l'enfant va dormir? Dans quoi l'enfant va se reposer? Qu'est-ce que je vais mettre à la disposition? Donc, dès le moment où ton esprit commence à travailler sur un projet, my God, c'est tout ce que tout ce dont Dieu a besoin pour pouvoir commencer à œuvrer dans ta vie. Donc, tu peux façonner 2010. Tu peux faire de 2010 une année d'opportunité, une année de rencontre, une année de connexion divine. Dis à ton voisin, connexion divine. Alléluia. Tu peux passer toute une année sans faire de connexion divine, comme tu peux aussi avoir une année remplie de connexion divine. Parce qu'en réalité, les connexions divines, ce sont des personnes que Dieu envoie dans ta vie pour pouvoir t'aider à atteindre le projet que tu as fixé. My God. Le cœur de l'homme médite sa voie, mais l'Éternel dirige ses pas. C'est toi qui médites ta voie. Qu'est-ce que tu veux devenir? Moi, l'année prochaine, il faut que ce soit une année de réalisation. Il faut que ce soit une année où je vais connaître une accélération. On a connu un temps, c'est vrai, on est rentré en France. On a conquis, je crois, on a possédé. Et puis maintenant, on est en train de s'établir. Mais moi, je veux voir ça en plus rapide. Alléluia. Oui, je vais expérimenter encore une autre dimension de Dieu. Je veux voir comment est-ce qu'on peut, on peut saisir une nation, un pays en 6 mois. Je veux voir des choses. Alléluia. Je veux voir. Et c'est ce que tu détermines. Toi, tu fais ton projet. Maintenant, Dieu va dire, bon, voilà comment tu vas faire. Fais comme si. Passe ici. Passe là. Alléluia. C'est là que tu vas commencer à voir des songes. C'est là que tu vas commencer à voir des visions. Mais si tu n'as pas de projet et que tu as des songes, à 99%, ça sera des cauchemars. Quelqu'un qui n'a pas de projet, qui rêve, c'est des cauchemars. tu vois, il ne va pas avoir de solution parce que lui, il n'a pas de projet. Il n'a pas de projet. Donc, on ne va lui montrer que sa situation présente. Tu vois. Moi, ce que je trouve formidable avec certains hommes et la plupart des hommes qui réussissent, la Bible dit que quand quelqu'un réussit, il ne faut pas lui en vouloir du mal. La dernière fois, on montrait un homme, un milliardaire, qui vient de construire un hôtel dans un pays quelconque au Maroc, un des hôtels les plus somptueux, tout ça. Et quand on vient interviewer le gars, il dit non, il a un projet là, dès qu'il finit l'hôtel, il va aller faire un autre hôtel. On dit qu'il est à sa 45e réalisation. 45e. Le monsieur a d'un certain âge. Mais il n'y a rien qui l'excite plus que, qui le motive plus que de savoir que il va générer quelque chose dans son esprit et qu'il va voir cette chose-là se matérialiser dans le physique. My God. Oh, Dieu nous a donné cette capacité. La Bible parle de l'Éternel en disant de lui, celui qui appelle les choses qui ne sont pas, qui les appelle à l'existence. Une autre version dira, celui qui appelle les choses qui ne sont pas, comme si elles étaient. Oh, alléluia, alléluia. Celui qui appelle les choses qui ne sont pas comme si elles étaient. C'est-à-dire que la voiture n'est pas encore là, mais tu dis, mais quand j'aurai ma voiture, alléluia, je monte dans ma voiture. Le portail de ma maison s'ouvre électroniquement, automatiquement. Quand j'arrive à 200 mètres, ça commence à s'ouvrir déjà. Faut sortir. Faut voyager. Alléluia. Faut rêver. Nous, on a un Dieu qui aime les gens qui rêvent. Tu vois? En tout cas, Martin Luther King a dit, I have a dream. J'ai un rêve. Je rêve pour cette nation. Je rêve d'un moment où noirs comme blancs nous marcherons ensemble. À ce moment-là, les noirs n'avaient même pas le droit de s'asseoir là où il est à côté d'un blanc. 40 ans plus tard, Dieu réalise le rêve de Martin Luther King en mettant le premier président noir. Oh my God! My God! Si tu ne rêves pas, tu ne verras rien. Rien. Si tu n'as pas de projet, si tu ne te projettes pas, si tu ne vois pas des choses, des grandes choses à réaliser, mais comment, avec, attends, qu'est-ce que tu veux? Tu veux que Dieu vienne causer avec toi? Bonjour, bonjour. Ça va? Tu as bien mangé aujourd'hui? Tu as mangé quoi même? Poulet frites? C'est pas grave, c'est pas, demain tu vas manger un burger. Même là, même il y a projet. Tu veux causer de quoi avec Dieu? Tu veux parler de quoi avec Dieu? Bâtis ta vie, mais sois l'architecte de ton avenir. Sois l'architecte de ta percée, de ta prospérité, de tes réalisations. Le cœur de l'homme médite sa voix. Et l'Éternel dirige ses pas. Tant que ton cœur ne commence pas à méditer tes voies, Dieu ne peut pas diriger tes pas. La Bible dit, voilà les signes qui accompagneront ceux qui auront cru. Donc, les signes nous accompagnent. Or, moi, je ne connais pas beaucoup de personnes qui peuvent accompagner quelqu'un qui ne sait pas où il va. Tu demandes à quelqu'un, mon frère, ça va? Oui, ça va, on dit quoi, tout ça, vraiment, je t'aime bien et tout. Alors, j'ai 2 minutes, là, j'ai 10 minutes, là, on peut passer du temps ensemble. Au fait, je vais t'accompagner. Où tu vas? Il dit, je ne sais pas. Tu sais pas où tu vas, tu veux. Ou bien tu viens, tu dis à ton ami, regarde, si quelqu'un vient tout de suite, tu te dis, accompagne-moi. La première question que tu vas lui poser, c'est quoi? À moins que vraiment, tu sois, tu n'as plus rien à faire sur la terre, quoi. La première question que tu vas lui poser, c'est où? Et maintenant, il te dit, je sais pas. Ah, frère, Paris est dangereux, hein? Tu sais pas, tu peux m'amener dans un coupe-gorge, tu peux m'amener dans un endroit, il y a trop d'endroits où il peut t'amener. Donc, s'il te dit qu'il ne sait pas où il va, mais tu ne peux pas l'accompagner. Donc, la première des choses, c'est de savoir, de déterminer où est-ce qu'on veut aller. Et c'est à ce moment-là que nous pouvons compter sur l'Éternel pour pouvoir nous accompagner. Et pour les signes et les prodiges, pour pouvoir nous accompagner. Amen. C'est le rôle de l'homme de planifier. Mais pour que ces plans s'accomplissent, il faut avoir la direction. Amen. Ce qui implique les priorités et les étapes qui sont spécifiques dans sa vie. Regarde Proverbes chapitre 19, verset 21. Il y a des versets comme ça que nous avons mal interprétés, qui ont affecté notre vie. Il y a dans le cœur de l'homme beaucoup de projets. Amen. Ça, c'est ce qui est normal. Dans le cœur de l'homme, il doit y avoir beaucoup de projets. Alléluia. Mais c'est le dessein de l'Éternel qui s'accomplit. C'est ce que l'Éternel bénit qui s'accomplit. C'est ce qui rentre dans l'agenda de Dieu qui s'accomplit. Alléluia. Mais l'homme doit générer beaucoup de projets. Dis à ton voisin, génère beaucoup de projets. Alléluia. Amen. En tout cas, j'ai beaucoup de projets. Dans Psaume 127, verset 1, par contre, David nous dit encore quelque chose. Est très important. Il dit, si l'Éternel ne bâtit la maison, amen, celui qui bâtit en vain. Amen. Si l'Éternel ne bâtit la maison, ceux qui la bâtissent travaillent en vain. Si l'Éternel ne garde la ville, celui qui la garde veille en vain. Amen. Mais, donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il faut se coucher et puis attendre et puis Dieu va bâtir la maison? Ou bien ça veut dire qu'il faut aller dormir et puis Dieu va garder la ville? Malgré, ça veut dire que il y a deux forces qui doivent rentrer en jeu pour que les choses puissent s'accomplir. Il y a d'abord l'effort de l'homme et la volonté de l'homme et la décision de l'homme. Amen. Mais que celle-ci doit être accompagnée par la bénédiction de Dieu, la volonté de Dieu, amen, et l'approbation de Dieu. C'est ces deux facteurs. Amen. Il y a des gens qui sont devenus des totalitaires. Non, moi je crois que c'est bien, Dieu va faire. Non, Dieu n'a pas dit il va faire. Il n'a pas dit il va faire. Il a dit on va faire. Alléluia. Et il y en a aussi qui se sont dit non, moi je n'ai pas besoin de Dieu, je vais me débrouiller. Et il y a ceux qui se débrouillent. Et puis il y a ceux qui attendent que Dieu fasse. Mais il faut qu'il y ait des personnes qui soient capables de pouvoir s'associer avec Dieu pour pouvoir accomplir. Est-ce que 2010 sera pour toi une année pendant laquelle tu vas collaborer avec Dieu depuis janvier jusqu'à décembre? Est-ce que tu ne vas pas dire, je vais commencer d'abord seul et puis on va voir. Si ça chauffe, je vais appeler Dieu. Il y a des gens qui sont comme ça. Il y en a d'autres qui vont dire, bon, vraiment, moi, je suis fatigué, je me suis battu, j'ai fait, maintenant, je vais laisser, Dieu va faire. Si tu attends que Dieu fasse pour toi en 2010, tu vas te retrouver à la fin de 2010, au même stade auquel tu as commencé. Est-ce que vous me suivez? Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Je parle à quelqu'un? Je veux que les choses changent pour nous. Amen. Je veux qu'on aille de l'avant. Je veux qu'on perce. Je veux qu'on expérimente des victoires. Je veux que véritablement on puisse avoir des choses à témoigner. Et dire vraiment, voilà ce que j'ai accompli avec Dieu en cette année. Amen. Je veux que quand on arrive à la fin de l'année, ce soit un moment de témoignage extraordinaire. Où tout le monde vient partager les projets qu'il s'est fixé pour 2010. Et puis les accomplissements qu'il a pu avoir tout au long de l'année. Alléluia. Il y a sept étapes. Donc, pour pouvoir marcher avec Dieu, pour que nos plans réussissent, il faut déjà qu'on fasse des plans. Et il faut aussi que nous puissions associer Dieu à nos plans. Amen. Et qu'on puisse marcher avec Dieu pour l'accomplissement de nos plans. Amen. Maintenant, pour pouvoir accomplir nos plans avec Dieu, il y a sept étapes. Il y a sept choses que nous devons faire si nous voulons que Dieu marche avec nous dans l'accomplissement de nos plans et de nos projets. Dis à ton voisin sept choses, sept étapes. La première étape, il faut honorer Dieu. Ah, c'est l'étape numéro un, honorer Dieu. Deuxième étape, rester concentré. Troisième étape, bâtir des relations saines et profitables. Quatrième étape, on doit être prêt pour l'opportunité. Cinquième étape, on ne doit pas abandonner. Enregistrez dans votre esprit. Sixième étape, ou bien acheter les CD. Sixième étape, apprendre à être relax, à se relaxer. Alléluia. Septième étape, il faut être reconnaissant. Amen. Donc je reprends. Honorer Dieu, rester concentré, bâtir des relations saines et profitables, être prêt pour l'opportunité, ne pas abandonner, apprendre à être relax et être reconnaissant. Amen. Aujourd'hui, je vais parler de la première étape. Honorer Dieu. Amen. Dans tout ce que nous faisons et dans notre vie en général, nous devons apprendre à honorer Dieu. Dis à ton voisin, honore Dieu. Marc chapitre 12, verset 29 à 30. Marc chapitre 12. Marc chapitre 12, verset 29 à 30. Ah, il faut apprendre à être relax. Hein? Amen. De toutes les façons, vous allez les avoir, vu que je vais les donner un à un. Attendez, je ne vais pas vous donner la recette comme ça et puis ne pas entrer dans les détails. Donc, au fur et à mesure qu'on va avancer, vous allez avoir le contenu. Amen. Voilà. Première étape, honorer Dieu. C'est l'étape la plus importante. Tu veux que Dieu entre avec toi en affaire, il faut l'honorer. Il ne peut pas entrer au même stade que toi. Il ne peut pas entrer au même niveau que toi. Tu as fait les projets. Tu veux maintenant que Dieu maintenant entre dans tes projets. Tu veux que Dieu te permette d'avancer dans ses projets et qu'il soit ton conseiller principal, qu'il soit celui qui dirige tes pas, qu'il soit celui qui va vraiment t'aider à le réaliser. Première chose que tu dois faire, l'honorer. Alléluia, l'honorer. Seigneur, c'est toi. C'est toi le maître, c'est toi le roi, c'est toi qui dirige, c'est toi. Si, tu dois même être prêt à mettre le projet devant Dieu et puis dire, Seigneur, si tu refuses, moi je me retire. Amen. Si tu ne veux pas, je me retire. Tu dois être prêt à dire à Dieu, Seigneur, si vraiment, si tu parles, pas un moyen quelconque, ou bien si vraiment tu me parles. Mais là, il faut pouvoir entendre la voix de Dieu. Tu vois? Il faut pouvoir entendre la voix de Dieu. Mais tu vois, plus tu vas avoir l'habitude de marcher avec Dieu, plus tu seras sensible à sa voix. Et Dieu nous parle. Par son esprit qui est en nous, Dieu nous dit, s'il est favorable, s'il ne l'est pas, il nous le dit. C'est bien simple, si ton projet n'est pas en conformité avec la parole de Dieu, c'est que Dieu n'est pas avec toi dans ce projet. Si toi-même tu n'es pas capable d'entendre, viens parler au pasteur, il va te dire. En fait, cette année, j'ai pour projet de construire la plus grande boîte de nuit de striptease de Paris. Il faut prier pour moi. Je dis, mon frère, peut-être le projet là, c'est avec le diable. Le diable va diriger tes pas. Parce qu'il n'y a pas que Dieu qui aide à réaliser les projets. Hein. Quand quelqu'un nous fait un projet diabolique et qu'il honore le diable va l'aider. Il va diriger ses pas. Il va avoir des connexions diaboliques. Il va rencontrer. Mais oui, il y a des gens qui honorent le diable. Tous les. Attendez, les chanteurs, les acteurs. Les réalisateurs de cinéma, dans tout ce qu'ils font, ils honorent le diable. Peut-être que vous ne le voyez pas, mais ils le font. Même les gens dans l'architecture de leur maison, ils honorent le diable. Le diable, il sait se faire honorer par ses partisans et par ses enfants. Mais ce sont les chrétiens qui ont peur d'honorer Dieu. On doit honorer Dieu. Amen. Et si nous voulons que Dieu nous aide à avancer dans nos projets, on doit l'honorer. On ne doit pas lui dire, bon, tu viens avec moi dans le projet, mais reste caché là. Il ne faut pas que les gens sachent que toi tu es dedans. Mais non, tu dois honorer Dieu. Et c'est ce que les Juifs font. Amen. C'est ce que les Juifs font que les chrétiens ne font pas. Les Juifs le font dans leur baptiste, dans leur bâtiment, dans leur magasin, dans leur boutique et tout ça. Ils honorent Dieu. Et tous les autres aussi, ils honorent leur Dieu. Allez dans un restaurant chinois. Ils honorent leur Dieu. Ils ont un gros bouddha là, le gars, il a un gros ventre et tout ça, il est assis, mais. Tu vas dans un restaurant indien, il y a un éléphant avec sa trompe et tout ça. Ils honorent leur Dieu. Ils honorent leur Dieu. Les seules personnes qui n'honorent pas Dieu, c'est les chrétiens. Et on veut que Dieu bénisse nos projets sans l'honorer. Pourquoi? Parce qu'on a honte de lui. Lui, il a un Dieu qui ressemble à un éléphant. Il n'a pas honte de son Dieu. Moi, mon Dieu, il est glorieux, il est merveilleux, il est magnifique, il est extraordinaire. My God. Et moi, je vais avoir honte de mon Dieu par rapport à un hindou qui a un Dieu qui ressemble à un cheval ou bien qui... Attends. C'est quoi ça? Les musulmans aussi, ils honorent leur Dieu. Rentrez dans le commerce d'un musulman, vous allez voir. Des fois même, il est en train d'écouter des trucs. Si tu n'es pas d'accord, tu vas faire quoi? Tu vas dire quoi? Tu vas faire quoi? Dans même bientôt, même nous tous ici, on sera obligés de manger halal. Hein? Mais c'est simple. Eux, ils ont décidé qu'ils allaient reprendre le contrôle de tout ce qui est boucherie ici en France. Non, ils vont pas chez les bouchers français parce que c'est pas halal et eux font pour eux. Or, ceux qui étaient là avant, là, il n'y avait pas halal et ils mangeaient, ils sont pas morts. Mais maintenant, ils ont décidé de manger halal. Donc, tout le monde maintenant va chez halal. Finalement, le boucher traditionnel, il disparaît et puis c'est l'arabe qui reprend. Et tout maintenant, ça devient halal, halal, halal. Un matin, tu vas vouloir manger quelque chose qui n'est pas halal, tu pourras pas. Parce que tu vas manger du halal. Et quand tu arrives, toi-même, tu vois qu'il honore son Dieu. C'est écrit, en gros, halal. Et puis quand tu rentres, tu vois les versets, les sourates et tout ça. Mais ça te, tu achètes. Et tu t'en vas. Mais pourquoi tu as peur que les gens te jugent parce que tu aimes Dieu et tu as honte de Dieu? Pourquoi? Dis à ton voisin, honore Dieu. Amen. Marc chapitre 12, verset 29 à 30, la Bible dit, Jésus répondit, voici le premier, écoute, en parlant des commandements. Il dit, écoute, Israël, le Seigneur notre Dieu est l'unique Seigneur. Amen. L'Éternel notre Dieu, il est l'unique Seigneur. Il n'y a pas un Dieu encore en dehors de lui, il est l'unique. Et cette certitude-là. Amen. Et, au verset 30, et... Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée et de toute ta force. Alléluia. Ça c'est Jésus. Voilà, il dit voilà, je vais te résumer les commandements. Tous les commandements, toute la loi, je les fais en deux lois. Voilà la première. Voilà la première et la plus importante. Amen. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur. Dis à ton voisin de tout ton cœur. De toute ton âme, de toute ta pensée et de toute ta force. Alléluia! Qui fait ça? C'est ce que vous dites. C'est vrai? Si c'est le cas vraiment, c'est bien que Dieu nous bénisse. Amen. On doit le faire. On doit l'aimer de tout notre cœur, de toute notre âme. De toutes nos forces, de toutes nos pensées. On doit aimer Dieu. Et tu sais, quand tu ne le fais pas, Dieu le sait. Il y a des gens, ils s'aiment eux-mêmes. De toutes leurs forces, de toutes leurs âmes, de toutes leurs pensées. Et c'est eux-mêmes qui s'aiment. Qu'ils aiment. Ils s'aiment eux-mêmes. Vous savez comment Dieu fait pour savoir? Parce que vous dites que oui, je l'aime de toutes mes forces, de toutes mes pensées, tout ça, je l'aime. Mais est-ce que vous savez comment Dieu fait pour savoir? Les gens pensent que quand on dit honorer Dieu, c'est dans le vent. Dieu là, il connaît tellement l'homme. Il connaît tellement l'homme qu'il sait ce qui touche l'homme. Et vous savez qu'est-ce qui touche l'homme en réalité? C'est son portefeuille. Parce qu'on a tendance à vouloir, pour se dédouaner, vouloir diaboliser tous ceux qui parlent d'offrande. Et d'argent, et tout ça, pour se donner une bonne conscience. Mais en réalité, la seule manière qu'on a de prouver à Dieu notre amour, c'est en donnant pour son œuvre. La seule. En donnant pour son œuvre. Donc si tu fais un bilan, et que tu te rends compte que dans le mois, tu dépenses plus pour tes chaussures, ou pour ton habillement, que pour l'œuvre de Dieu, tu ne peux pas dire que tu l'aimes de tout ton... Non, laissez que. De tout ton corps. Tu ne peux pas dire que tu aimes de tout ton corps. Il y a des personnes, quand ils arrivent à l'église, ils ont 250 euros sur leur dos. Oui, je parle de leurs habits. Là, le costume, la cravate et tout. Quand tu calcules tout ça, ça fait au moins 200 euros. Tu as des femmes, elles sont à 400, 500 même des fois pour certaines. Il y en a qui sont à 50. Bon, pas beaucoup, hein. 50 quand même. Une femme ne peut pas sortir à 50 euros sur son dos. Bon, ça dépend, mais il y en a qui sont à 50, mais ça m'étonnerait qu'il y ait moins, parce que ça veut dire que tu t'habilles avec des sacs. Oh, personne ne peut me faire croire. Vous enlevez vos chaussures, on prend les chaussures seulement, il n'y a pas de chaussures qui a à moins de 30. Arrêtez ça! Arrêtez ça! Il y en a à moins, mais il y en a combien qui portent? Bon. Non, je sais pas. Il y a quelqu'un qui a moins de 50 euros sur lui. Bon, gloire à Dieu. Gloire à Dieu. C'est bien. Amen. Le problème, ce n'est pas ce que vous avez, le minimum que vous avez sur vous. Le problème, c'est que il ne faut pas que ce que vous mettez sur vous dépasse ce que vous donnez à Dieu. Est-ce que vous comprenez? Et là, ça devient dur. Et là, ça devient difficile. Comment ça? On continue. Oui, vous allez comprendre. Jésus a dit, tu dois aimer ton Dieu de tout ton cœur, tu vois, de toutes tes forces, de toutes tes pensées et de tout ton corps, de tout ton être en fait. Amen. C'est le premier commandement. Il dit, voici le second ensuite. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Tu vois, Dieu, tu ne peux pas l'aimer comme toi-même. Est-ce que vous me suivez? Tu ne peux pas aimer Dieu comme toi-même. Il y a des gens qui disent, ah oui, mais moi aussi. Non, tu ne peux pas mettre Dieu et toi sur le même pied d'égalité. Honorer Dieu, ce n'est pas le mettre sur le même pied d'égalité que nous. Honorer Dieu, ce n'est pas choisir entre lui et nous. Honorer Dieu, c'est toujours Dieu d'abord. Dis à ton voisin, Dieu d'abord. C'est Dieu d'abord. Même la personne même qui porte 30 euros, même la personne qui porte même 10 euros, si la première des choses que tu fais lorsque tu as de l'argent, c'est de penser aux habits que tu vas acheter et de donner le reste à Dieu, tu t'es mise avant Dieu, malgré tes 10 euros que tu portes, ça ne va pas te faire entrer dans le royaume de Dieu. Est-ce que vous comprenez? Ce n'est pas une question de montant. Tu sais, il y a des gens qui peuvent mettre même 1000 euros sur eux. Mais s'ils mettent 1000 euros sur son dos, et que lorsqu'il finit de signer une affaire où il a gagné, je ne sais pas, même des millions, et qu'il dit, qu'est-ce que je peux faire pour mon Dieu? Ça, c'est sa première préoccupation, c'est Dieu. Est-ce que vous comprenez? C'est pas trop la quantité, parce qu'on a commencé à rentrer. Non. C'est pas la quantité, c'est la priorité. Est-ce que vous comprenez? Dis à ton voisin, la priorité. La priorité. Non, c'est pas mieux. Vous avez voulu m'enliser. Mon message n'est pas terminé. Quand j'ai commencé à parler, on a voulu m'enliser dans mon temps. Le problème n'est pas le montant. Le problème, c'est la priorité. Quand tu dis que j'aime Dieu de tout mon cœur, ça veut dire que quand tu veux faire plaisir, la première personne à qui tu veux faire plaisir, c'est Dieu. Quand tu réussis, la première personne que tu veux honorer et la première personne que tu veux remercier, c'est Dieu. Quand tu as une opportunité, ou bien que tu peux faire quelque chose, la première personne à qui tu veux faire profiter de la chose, ou bien le premier service que tu veux rendre, mais c'est celui que tu peux rendre à Dieu. Et c'est ce que le Seigneur dit. Il dit, Dieu d'abord. Les premières choses en premier. Qui est en premier? C'est Dieu. Au commencement, Dieu. Dieu est en premier. Est-ce que vous me suivez? Au commencement, Dieu. Donc, first things first. Les premières choses en premier. La première chose, c'est Dieu. Et le reste, c'est après. C'est pour ça qu'il dit, tu aimeras ton Dieu. Après, il dit, et tu aimeras ton prochain comme toi-même. Tu ne peux pas te mettre sur le même pied d'égalité que Dieu, mais tu dois mettre ton prochain sur le même pied d'égalité que toi. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que, my God, quand tu dois donner à Dieu, tu ne peux pas donner à Dieu quelque chose que toi-même, tu utilises couramment, quoi. Tu dois donner à Dieu quelque chose qui est supérieur à ce que toi-même tu as l'habitude d'utiliser. Si tu as l'habitude d'utiliser des parfums de 20 euros, à titre d'exemple, le jour où tu dois offrir un parfum, c'est pas pour à l'homme de Dieu ou bien pour le service de la maison de Dieu ou bien ce genre de choses. Tu peux pas aller prendre le même prix de parfum que tu dois aller prendre celui de 40. Est-ce que tu me suis? Mais c'est comme ça que tu marques la différence entre toi et Dieu. C'est comme ça que tu honores Dieu. Et certaines personnes, ils vont même, oh, c'est lequel qui en sort là. Il prend le truc qui est à 7 pour donner à Dieu. Lui-même, il prend pour 20. Et puis pour son ami qu'il aime bien, il prend pour 40 ou bien il prend pour 30. Ça veut dire que ton ami est plus honoré que Dieu. Oh. Je vais vous raconter une histoire. Ça va vous faire rire. Parce que moi, ça m'a fait beaucoup rire aussi. C'est un couple qui décide de recevoir le pasteur. Ils disent, on va honorer Dieu, nos enfants, parce que les enfants ont tous réussi à leurs examens. Il y en a qui passaient le bac, il y en a qui passaient le BPC. Donc, ils ont dit, ils vont organiser une fête. Et lorsque le pasteur va venir, ils vont manger ensemble et puis ils vont honorer l'homme de Dieu parce que vraiment, ils croient que c'est Dieu qui a béni la maison et tout ça. Et au moment où ils doivent préparer, ça vous fait rire. Il y avait un poulet qui avait un seul œil, qui avait un œil crevé. Et donc, sur les trois, vu que c'était vers la fin de l'année, il y avait encore d'autres fêtes à venir. La personne doit préparer, il dit, mais patron, il y a trois poulets, on prend lequel? Le patron, il vient, il dit, mais pense celui qui a l'œil crevé là. Comme ça, au moins, on règle ça. Et puis, pour les autres, au moins... Il ne sait pas de quoi le lendemain fait, donc le cuisinier prépare ça. Mais ce qui est grave, c'est que au moment où le pasteur, maintenant, ils ont fini de préparer tout, généralement on enlève la tête du poulet et tout ça, et puis le pasteur doit bénir le repas et tout, au moment où il s'apprête à bénir le repas, Dieu révèle au pasteur que c'est le poulet à l'œil crevé qu'ils ont préparé pour nourrir le serviteur de Dieu. Et maintenant l'homme de Dieu qui s'apprête à bénir le repas, qui leur demande, il dit, mais pourquoi c'est le poulet à l'œil crevé? Il dit, attends, non, il n'a pas commencé comme ça. Il dit, c'est bizarre, je vois un poulet à un œil crevé. Le mari et la femme se regardent. Il dit, mais pourquoi Dieu me montre un poulet avec un œil crevé? Et c'est là la femme qui dit, vraiment, pasteur, on est désolé, mais quand il s'agissait de choisir le poulet qu'on allait préparer, on a préféré prendre celui qui avait l'œil crevé parce qu'on s'est dit que si on ne le préparait pas, maintenant il risquait de mourir. Et c'est là que le pasteur a dit, vous voyez, quand vous voulez honorer Dieu, honorez-le avec ce que vous avez de mieux et non ce que vous pouvez donner comme ça. Et il y a des gens, c'est dans leur habitude. Et vous savez, ici on est en France, je sais que lorsqu'on parle de ces choses-là, ça gêne les gens, ça dérange les gens, ça provoque des problèmes. Il y a des gens même qui se lèvent, qui partent des églises parce qu'on leur dit ça. Mais Jésus, il dit... Tu sais, quand on te dit aime Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toutes tes pensées et de toutes tes forces, my God, ça veut dire que tu ne peux pas le mettre au même pied d'égalité que toi. C'est pas possible. Si aujourd'hui il y a un problème, ou bien si ça ne roule pas bien avec Dieu, ça doit être parce que tu ne l'as pas mis à la place qu'il doit avoir dans ta vie. Et sa place, c'est premier, c'est en haut. Alléluia. Et dans ton projet, tu vas accomplir des projets, tu veux réaliser un projet en 2010. Il faut que Dieu, il faut qu'il soit prioritaire. Amen. Réussir une année, c'est quoi? Réussir une année, c'est faire en premier ce qui vient en premier. Amen. Et mettre Dieu en premier. Si tu veux voir des choses extraordinaires dans l'année qui vient, tu dois prendre le devant et avoir pour priorité de démontrer ton amour pour Dieu et pour son œuvre. Il y a des gens qui disent que oui, moi j'aime Dieu, de toute façon Dieu sait, Dieu regarde au cœur, l'homme regarde à l'apparence. Mais l'amour est démonstratif. L'amour se démontre. Jésus, il nous a tellement aimés qu'il s'est donné pour que nous soyons sauvés. Dieu, il a tellement aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Comment est-ce que l'amour de Dieu s'est manifesté? Par le don. Comment l'amour de Jésus s'est manifesté pour nous? Par le don. Est-ce que vous comprenez? Quand vous aimez quelqu'un, vous donnez. Jésus aurait pu dire, j'aime, je vous aime, hein, je vous aime, mais vraiment, c'est pas grave, mais moi je ne peux pas mourir pour vous. Qu'est-ce qui montre vraiment son amour? Le fait qu'il soit mort pour nous. Est-ce que vous comprenez? Ah là, je suis en train de toucher aux affaires du diable. Hein. C'est dangereux là. Hein? L'amour, ça se démontre. C'est pour ça que quand un homme, quand il aime une femme, il va la couvrir de cadeaux. Il va la couvrir de présents. Il va aller chercher. Quand il va chercher le parfum là, vous pensez qu'il va à Barbès prendre un parfum chinois? Si un homme vous amène un parfum chinois de Barbès, on n'est pas du monde, mais on vit dans le monde. Il va chercher un parfum, toi-même tu sais que c'est 2,50 €. Qu'il a acheté ça au coin de la rue. Et il vient, il te donne ça, il te dit vraiment, je t'aime, je t'aime. Tu dis, mais on n'est même pas encore marié, même tu me donnes ça. Quand on sera marié, ça sera quoi alors? C'est grave. Bon, tu vas me dire, maintenant ça dépend. Si tu sais que le frère, vraiment, il n'a pas de moyens, qu'il n'a rien, et que pour lui, ce parfum de 2,50 €, c'est comme déplacer une montagne. Mais ça se voit. Mais le frère, il ne peut pas venir garer sa BMW. Avec un foulard, je ne sais pas si c'est un foulard Cacharel ou bien, je ne sais pas, Chanel et tout ça. Et puis il arrive, tu sais, vraiment, je t'aime tellement, tiens, j'ai pensé à toi, je t'ai pris un parfum. Toi-même, quand tu vas prendre la voiture, tu vas te dire, certainement, ils m'ont offert quelque chose de bien. Et quand tu vas ouvrir et que tu vas voir dessus made in China, le nom même là, tu ne sais même pas c'est quoi, tu seras déçu, tu vas dire, mais il est en train de se moquer de moi. Vous voyez, le don exprime l'amour. Est-ce que vous comprenez? C'est pour ça que lorsqu'un homme demande une femme, il va aller, des fois, il n'a même pas les moyens, mais il va aller presque s'endetter pour offrir une bague de fiançailles. Et quand la sœur, elle passe devant un magasin, et qu'elle voit que sa bague de fiançailles, là, des fois même qu'elle voit la bague de fiançailles, elle dit, à chaque fois qu'elle doit prendre un truc, elle voit, elle dit, mais, il m'aime, moi. Mais si tu lui offres une bague de fiançailles, dès qu'elle a fini de se laver les mains, la bague de fiançailles, à chaque fois qu'elle va vraiment dire, mais chérie, vraiment, je ne sais pas, mais la bague de fiançailles que tu m'as donnée là, on dirait que c'est pas. Tu vois, l'amour, tu sais, quand tu aimes quelqu'un, tu vas commencer à penser, mais qu'est-ce que je peux donner à cette personne pour lui faire plaisir? Tu vois, vous allez dire, allons dans la parole de Dieu. Allons dans la parole de Dieu. Moi, je prends mon temps, je suis tranquille, parce que je sais, quand j'enseigne, j'enseigne sur la base de la parole. Il n'y a jamais mes émotions qui vont transcrire sur quelque chose. Voilà. S'il n'y a pas de verset, ce n'est pas la peine. Mais si je dis, on va dans la parole, tu vas voir que c'est ce que la Bible dit. Proverbe, chapitre 3, verset 9. Proverbe, chapitre 3, verset 9. La Bible dit quoi? Honore l'Éternel avec tes paroles. Hein? Non. Honore l'Éternel avec tes chants. Hein? Non. Honore l'Éternel avec tes prières. Tu vois? Honore l'Éternel avec quoi? Ah. Avec tes biens. La seule manière d'honorer Dieu, c'est avec ses biens. C'est avec nos biens qu'on honore l'Éternel. Amen. C'est avec nos biens qu'on honore l'Éternel. Et regarde la conséquence. Et avec aussi, il dit, et avec les prémices de tout ton revenu. Amen. Les prémices de tout ton revenu. Les prémices de tout ton revenu, ça veut dire quoi? Ça veut dire que la première chose qui sort comme dépense dans ton revenu, c'est ce que tu donnes à Dieu. Il y a des gens qui disent non. Moi, je n'ai pas encore payé mon loyer. Je n'ai pas encore payé ma facture d'EDF. Je n'ai pas encore payé ma facture de GDF. Est-ce que tu as payé ta facture de vie? Et puis, est-ce que tu as payé ta facture de l'oxygène que tu respires? Et est-ce que tu as payé ta facture de protection? Est-ce que tu as payé la facture de la grâce de Dieu sur ta vie? Tu as payé toutes ces factures-là? Entre EDF et tout ça, qu'est-ce qui est plus important? Mais comme eux, ils coupent. Et que Dieu ne lui coupe pas. Parce qu'il y a des gens, ils auraient aimé qu'ils soient les en train de marcher. Et puis, paf, ils se sont dit non, on a coupé sa facture. Là, ils allaient, c'est ça qu'ils allaient payer en premier. Mais Dieu, il nous donne la liberté. Il nous laisse. Et comme il nous laisse, donc on le met, au lieu de le mettre en premier, on le met en dernier. Et puis maintenant, quand on veut qu'il nous bénisse maintenant, on dit, Seigneur, bénis-moi en premier, bénis-moi vraiment. Mais attends, va voir les gens d'EDF, ils vont te bénir. Va voir les gens d'Orange, ils vont te bénir. Tu peux pas dire que j'aime Dieu de toutes mes pensées, de tout mon cœur, de toutes mes forces, et puis payer ta facture de cellulaire avant d'apporter la dîme à l'Éternel. Tu peux pas. honorer Dieu. Dis à ton voisin, honore Dieu. Tu vois, il dit au verset 10, alors tes greniers seront remplis d'abondance et tes cuves regorgeront de moût. Amen. Si tu fais ça, si tu mets Dieu en premier, alors tes greniers seront remplis d'abondance. Quelqu'un veut avoir ses greniers remplis d'abondance en 2010? Commence, prends cette résolution. À partir de maintenant, j'honore Dieu. J'honore Dieu. Je mets Dieu toujours devant et je le mets toujours en avant. Amen. Lors des mariages, lors des anniversaires, à la Noël, à l'occasion de la nouvelle année, on est toujours heureux d'apporter nos présents à nos amis, à nos époux, à nos proches, à nos parents, à nos patrons. On fait passer des fois les enfants même avant Dieu. Mais lorsqu'il s'agit de donner à Dieu, on traîne les pieds, on est triste. Il y a un autre passage encore. C'est vrai que le temps a avancé, mais je vais lire ça quand même. 2 Corinthiens chapitre 9, verset 7. 2 Corinthiens 9, verset 7. La Bible dit que chacun donne comme il a résolu en son cœur, sans tristesse ni contrainte, car Dieu aime celui qui donne avec joie. Tu vois, Dieu aime celui qui donne avec joie. C'est-à-dire que, et il dit que celui qui donne comme il a résolu. Donc, le fait d'apporter à Dieu doit être le fruit de quelque chose qu'on a décidé. Amen. Ça ne doit pas être le fruit de quelque chose que les gens ont décidé à notre place ou que la vie a décidé. Je vais mettre ma main dans ma poche, le premier truc qui sort, je donne. Non. On décide, j'ai résolu de donner. Et que chacun donne comme il a résolu. Si tu as résolu de donner quelque chose, il ne faut pas dire après, non, en fait, j'ai eu un accident là, j'ai dû prendre. Non. Ton accident n'a rien à voir avec l'argent que tu as résolu de donner à Dieu. Si tu prends sur l'argent de... Tu sais jamais de quoi le lendemain faire. Après, tu vas dire, oui, je ne comprends pas. Depuis quelques mois, là, chaque fois que je prends une voiture, il y a un accident. Mais il faut que tu comprennes que tu ne peux pas prendre ce qui est à Dieu. Dès le moment où tu l'as résolu, ça ne t'appartient plus. Est-ce que vous comprenez? Quand tu as résolu, c'est pour ça qu'il dit qu'il donne comme il a résolu. C'est-à-dire qu'à partir du moment où tu as décidé de donner ça, tu ne peux plus revenir dessus, quelles que soient les circonstances. Mais Dieu... d'abord, tu vois, mets Dieu d'abord. Honore Dieu, tu vas voir. Tu sais pas ce que, si en honorant Dieu, tu sais pas si Dieu va permettre que, justement, tu rentres en contact avec un mécanicien qui va te dire, oh, je répare tout ça gratuitement pour toi. Est-ce que vous comprenez? Honore Dieu d'abord. Dis à ton voisin, honore Dieu d'abord. Tu vois. Par contre, une mauvaise attitude ne nous assure pas la plénitude de la bénédiction. Amen. Donc, ne pas donner avec joie, ça ne nous assure pas la plénitude de la bénédiction. Alléluia. Donc, honorer Dieu, rester concentré, bâtir des relations saines et profitables, être prêt pour l'opportunité, ne pas abandonner, apprendre à relaxer et à être reconnaissant. Alléluia. On va se lever, on va prier le Seigneur. Alléluia. Prie ton Dieu ce matin, prie ton Dieu. Dis-lui, je veux faire de toi mon associé. Mon associé pour cette nouvelle année qui vient. Mon associé à partir d'aujourd'hui. Alléluia.
Nous espérons que vous avez été bénis par ce message. Chaque année, le ministère Enseigne-moi a un impact considérable dans la vie de dizaines de milliers de personnes. Avec votre aide, nous continuerons à diffuser la parole de Dieu partout dans le monde. Dès aujourd'hui, devenez vous aussi partenaire du ministère Enseigne-moi en vous connectant sur le site www.association-enseignemoi.org. www.association-enseignemoi.org.